Ils ont changé le monde. Les vêtements. Yvan Jacob.
L'écrivain allemand Ulrich Plenzdorf disait « Le jean, c'est un comportement, pas un vêtement. » Histoire d'une pièce qui a envahi nos rues et nos placards, le jean.
Il est bleu parce qu'il est bleu.
Il y a des jeunes qui sont des princes quand ils viennent en blue jean, ils le portent très très bien.
Tout le monde a un petit peu tendance aujourd'hui à s'habiller de la même manière, n'est-ce pas, le blue jean.
Avant le jean, il n'y a pas le jean, il n'y a pas de jean à Paris.
Mais c'était pas évident de trouver des jeans à Nîmes, bien que paraît-il, le jean a été inventé à Nîmes.
Et ça, c'est la dernière mode, les baggy jeans, les jeans sac à patates.
Make the jean French again.
S'ils n'avaient pas déjà existé, ils auraient rêvé de l'inventer. Andy Warhol et Yves Saint Laurent partageaient ce même regret, celui de n'avoir pas créé le jean. Quelque chose dont on se souvienne, quelque chose de fantastique, écrivait le roi du pop art à propos du vêtement le plus célèbre du monde, répétant même qu'il aimerait mourir en le portant. Le seul fait d'évoquer le jean fait surgir une multitude de références et d'imaginaires. Pattes def, baggy, bootcut, mum ou même slim, hiver comme été, on en a tous un préféré. Peut-être êtes-vous en train d'en porter un à l'instant où vous nous écoutez, car sa popularité reste inaltérée. Un jean est vendu toutes les 73 secondes dans le monde, un total étourdissant de 2 milliards de pantalons par an, dont 90 millions rien que pour la France. Pourtant, le jean est également l'un des très grands pollueurs de la planète, devenu malgré lui le symbole des excès de la surconsommation de mode. Qui est-il? D'où vient-il? Et où va-t-il? On va parler du jean et de la façon dont il a changé le monde. Et pour explorer cette histoire tout en dénime, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Salomé Dudemaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de la mode, vous avez cofondé, aux côtés de Julien Sanders, la revue Griffée, qui explore l'histoire de grandes maisons de mode françaises, non pas seulement à travers la figure du directeur artistique, comme c'est souvent le cas, mais en mettant en lumière le travail de toutes celles et ceux qui ont façonné ces maisons de l'intérieur. Et François Girbeau, bonjour.
Bonjour.
Ceux qui adorent le jean vous connaissent forcément, car vous êtes dans le milieu une légende vivante. Vous avez fondé avec Marité Bachellerie la marque Marité plus François Girbeau. En 1972 déjà, Paris Match vous qualifiait de pape du jean français. Ouais. Depuis les années 60, vous façonnez des jeans et vous en triturez la toile. Vous qui avez inventé des jeans, à la différence de Warhol, lequel êtes-vous le plus heureux ou le plus fier d'avoir inventé, François?
Mais je viens d'apprendre quelque chose avec Warhol, parce qu'effectivement, dans le dernier temps de sa vie, on dînait ensemble, il est mort avec un jean à nous.
Oh, c'est pas vrai.
Avec Pablo Escobar aussi, donc je...
Eh ben, deux infos incroyables dès le début. Alors, lequel vous préfériez, celui de Warhol ou celui de Pablo Escobar?
Non, mais Escobar, ça m'a apporté des problèmes.
Vous, Salomé Dudemaine, vous ne créez pas de jeans, mais vous en avez croisé des dizaines dans les archives notamment. Est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué?
Dans les archives
Ou dans votre collection personnelle, ou à votre maman ou...
Ah oui, c'est vrai. Bah, ça, moi, je trouve que c'est là qu'il y a la puissance de cet objet, qui est à la fois quelque chose de très universel et en même temps quelque chose de très personnel et qui vit avec un corps. Et c'est, en effet, j'ai toujours eu ce premier jean iconique, c'est celui que ma mère a rapiécé. Je la voyais le week-end sortir la machine, un nouvel empiècement de jean qu'elle avait récupéré sur je ne sais quel autre vêtement, et rajouter une pièce ou un patch pour garder cette base de jean, mais qui n'est plus du tout le jean originel à la fin. C'est une espèce de Frankenstein bien à elle.
Le jean renvoie à tellement de choses qu'avant de commencer, j'ai envie de vous demander si vous deviez résumer le jean en un mot, pour vous, c'est quoi? C'est pas facile comme question.
Non, je suis pas capable de répondre ça. Je sais pas. Non, je sais pas. C'est jean, c'est ma vie. Donc, c'est vachement difficile de parler de sa vie et de dire. Non, je crois que c'est.
C'est ma vie. C'est une réponse à accepter.
Ouais. Savoir, c'est que c'est un vêtement qui a été créé pour travailler, André Castelot.
À la base, oui.
À la base, oui. Et on se demande s'il n'y a pas un détournement de fonction Maintenant, on peut, par exemple...
Ça a été créé pour des mineurs.
Pour des mineurs.
Et
pour des mineurs.
Sur les plages.
Et d'ailleurs, la coupe, elle n'est pas faite du tout sur un gabarit morphologique français ou européen. Elle est faite pour vraiment des statures américaines, c'est-à-dire des gens qui travaillaient manuellement, soit dans les mines, soit des cow-boys qui l'ont repris parce qu'ils avaient une stature très large d'épaule et très étroite de hanche.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Car le soir, on peut sortir avec un magnifique chemisier et un jean et ça passe aujourd'hui. D'accord.
Il est arrivé en France, vous posiez le problème. Il a été compris en France, je crois, par les Américains qui ont quitté après la guerre en 1945, qui sont restés en Europe. Et on s'est aperçu que les Américains, jeunes, vivaient d'une façon décontractée en blue jean, en pantalon jean, et avec des petits polos qui n'existaient pas, ce genre de tricot de peau américain qui n'existait pas tellement et qui n'était pas porté à la vue des gens en France. Et ce sont eux qui, avec leur décontraction, l'ont imposé. Et on s'en est rendu compte comme ça.
Alors vous avez peut-être reconnu la voix d'André Courrèges à la télévision en 1976. Salomé Dudemaine, est-ce qu'André Courrèges dit vrai? Le jean est né aux États-Unis?
Moi, je pense que ce que André Courrèges dit de vrai, qu'est-ce que le jean, d'où il vient et son origine? Il y a plusieurs réponses possibles à donner. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a tous en tête un producteur de jean par excellence, c'est Lévi-Strauss. Et s'il en est l'inventeur, je ne sais pas. En revanche, je pense que si cette personne a compris quelque chose, c'était qu'il pouvait en faire un outil fort de marketing. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il a pris cette figure de pionnier. En plein milieu du 19e siècle aux États-Unis, on découvre l'Ouest, on creuse le sol, on mine, on travaille de ses mains, on travaille aussi dans les ranchs, on travaille la terre. Et donc, il faut des vêtements résistants. Est-ce qu'il était le seul à en proposer? J'en doute. Néanmoins, il en a fait une très grande publicité à partir de la deuxième moitié du 19e siècle.
Et il a déposé un brevet aussi.
Exactement.
En 1873. Mais
qui a pris fin en 1989.
Ça a duré tout ce temps.
Ouais.
Et François Girbeau, il y avait des jeans avant 1873, avant qu'il dépose ce brevet.
C'est vrai que à San Francisco, à cette époque-là, il y a eu ce fameux Jacob Davis qui a mis un rivet pour renforcer des poches pour un pantalon mineur qui n'a rien à voir, de toute façon, par la forme avec un five pocket d'aujourd'hui. Donc c'est un pantalon comporté avec des bretelles. C'est un bib overall, quelque part.
Oui, ça s'appelait même pas le jean.
Ça s'appelait pas un jean. Donc ça, cette origine-là. Elle existe. Après, de dire que tout ça vient de Nîmes ou de Gênes, là, je suis bien gêné en tant que jeaneur, hein, putain.
Où est la vérité à l'heure où la légende s'en empare? Ma vérité ou un historique du jean? La mythologie américaine sans empire, state, building, Hollywood au crépuscule, silhouette d'un cow-boy. Le jean participe à cette légendaire conquête de l'Ouest. Son côté fonctionnel a séduit ses gardiens de vaches qui remontent le Chisholm Trail, ses coureurs de prairies, ses défricheurs de frontières. Il est sur le Chuck Wagon qui cahote vers les terres indiennes. Il est celui qui construit une ville. Il conduit la diligence. Il pose les rails du cheval de fer. Il est légende quand on l'attelle entre deux chevaux sur la place à Frisco. Les sangles du harnachement se tendent, gémissent. Le jean, superbe au milieu, résiste. C'est le pantalon de mineur de Mr. Lévi-Strauss. Il est cinéma chevauché, cinéma liberté, cinéma Kit Carson, Buffalo Bill, cinéma Tom Mix, Hopalong Cassidy and Trigger, Lone Ranger, James Dean. Une fureur de vivre éclate sur les écrans géants cinémascopes. De la graine de violence retentit jusqu'à West Side Story. La jeunesse se bouscule au shape. On va jusqu'à La Rochelle pour trouver son jean. On punaise les idoles. C'est Elvis Presley dans Jailhouse Rock. Le jean, c'est l'uniformité. Le nivellement de la classe sociale dans les surbooms. C'est dans les stocks américains les premiers jeans français. Ils ressemblent étrangement aux américains qu'on trouve chez Barou, Rica Lewis. Il n'y a pas beaucoup de différence.
France Culture, ils ont changé le monde. Les vêtements, Ivan Jacob.
C'était un extrait d'un dossier de presse que vous avez écrit, François Girbaud. Où est la vérité à l'heure où la légende s'en empare? C'était lu par Marie Misset. Pourquoi on appelle le jean le jean? C'est parce qu'il y a un tissu qui est originaire de Gênes, Salomé Dudemaine.
Oui, c'est quand même un vêtement qui, avant de s'appeler par, une coupe ou quoi, son origine, elle est surtout liée au tissu qui est employé. Alors après, ça pose la question de d'où est-ce qu'il vient. Et c'est intéressant parce que c'est un vêtement qui incarne vraiment ce que c'est que la connexion entre les pays qui existent depuis très longtemps, à la fois d'abord en Europe et puis ensuite vers le nouveau continent qui était les États-Unis. Mais elle tient son nom du fait que les différents ports et différentes villes, à la fois fabricantes et marchandes, en Europe, communiquaient les unes avec les autres.
Donc la ville de Gênes, la ville de Nîmes.
Exactement, donc la ville de Nîmes en France, donc dans le sud de la France, qui produisait une sorte de toile qui avait donc cette particularité d'être un sergé et qui est devenue aujourd'hui la caractéristique a priori du jean, même si on peut toujours se poser la question, parce que est-ce qu'un jean maintenant c'est pas aussi juste une toile de coton, pas forcément sergé. Néanmoins on reconnaît un sergé parce que c'est une espèce de toile dans la façon de la fabriquer qui est très résistante.
Il faut expliquer ce qu'est un sergé pour nos auditeurs.
Et qui visuellement se reconnaît parce qu'elle est...
C'est une façon de tisser.
Oui. Diagonale.
En diagonale.
Voilà, exactement. De croiser les fils qui forment une espèce de diagonale. Quand on passe la main sur son jean, on la sent.
Et donc, en France, à Nîmes notamment, on produit une toile sergée en laine, pas en coton, ça c'est très important. Donc, il n'a pas grand-chose à voir avec le jean tel qu'il est aujourd'hui.
Parce qu'on est encore plus ou moins vers le XVIe siècle, en tout cas c'est ce que certains historiens qui ont travaillé sur le sujet ont délibéré. Et donc, à cette époque, le coton en Europe, c'est pas non plus la fibre la plus pratiquée. Et donc, il faudra surtout attendre plutôt deuxième moitié du XVIIIe siècle et surtout le XIXe siècle avec, évidemment, les différents empires coloniaux, le développement de la culture du coton pour qu'on... On préfère notamment le coton à la laine pour créer ses vêtements de travail et aussi parce que il faut comprendre que, en effet, l'origine du jean, avant qu'elle devienne quelque chose de juste culturel ou du style ou une façon de penser la vie, comme l'expliquait François juste avant, c'est surtout une question de praticité. Et le coton, c'est une fibre qui se nettoie facilement, qui peut être nettoyée à très haute température. Et donc, c'est pratique quand on pense à un vêtement de travail. Par exemple, au moment je reviens à ce Golden Rush, mais Lévi-Strauss, au départ, c'est un vendeur de tissus. C'est pas forcément un vendeur de vêtements. Et c'est parmi certainement beaucoup d'autres acheteurs de biens importés depuis l'Europe, surtout l'Angleterre, qui à l'époque industrialise le filage, le tissage, et puis ensuite produit énormément de matières qui sont distribuées ensuite partout dans le monde, et notamment vers les États-Unis. Déjà, l'origine du mot de Nîmes ou du mot jean, c'est donc la toile de Gênes ou la toile de Nîmes, de jean. C'est aussi déjà très empreint de culture anglo-saxonne, déjà dans l'étymologie de ces deux termes.
Oui, ouais, le tissu, on sait très bien que le tissu de Lévis aujourd'hui, c'est à Mockstead. C'est à Mockstead, c'est dans le New Hampshire, c'est à Manchester dans le New Hampshire. Donc de toute façon, on sait très bien que cette toile-là, elle ne vient pas de France, elle est fabriquée directement aux États-Unis.
François Girbaud, vous êtes arrivé au jean parce que vous rêviez enfant d'Amérique et de cow-boy. C'est à cet imaginaire-là qui vous a plu au départ, au tout départ, quand vous étiez enfant?
Moi, je voulais être cow-boy. Donc j'étais attardé, certainement. Aujourd'hui, on dirait Asperger ou je sais pas quoi. J'étais complètement décalé. Je voulais être cow-boy. Et on m'expliquait que je pouvais pas être cow-boy en France. Donc, voilà. Mais c'était pas le seul, puisque quelque part, en même temps, on avait 18, 17, 18 ans, etc., etc. Il y a eu quand même Elvis Presley. Il y a le Goldrow. Donc, il y a eu Long Chris, qui est devenu un ami. Et on était les cow-boys à Paris. On était 3 ou 4 de cow-boys, habillés en cow-boys dans Paris à cette époque-là. Et dans le métro, moi, je me suis trouvé avec ma selle, etc., etc., et avec tout le monde qui
votre selle à cheval.
Ils m'ont foutu. Je suis sorti du métro. Et maintenant, quand je vois passer tous les gens en bleu de jean, là, ça me fait rigoler quand même un peu.
Alors justement, le bleu de jean, pourquoi il est bleu, ce jean, Salomé Dudemaine?
Parce que tout vient de là, vient du blues.
C'est ça. Exactement. Il est bleu parce qu'il est teint avec une teinture qui provient de donc de enfin qui s'appelle l'indigo qui provient de plusieurs types de plantes.
Qui indigo sphera, qui est une plante et c'est une plante qui a la possibilité. Ce qui est vachement bien, c'est que quand avec la teinture, c'est l'oxydation. Donc c'est quelque part, il faut pas confondre la teinture indentrin avec un bleu indentrin ou avec là l'indigo. On voit un fil qui trempe dans le truc, qui ressort, et pendant qu'il ressort, il s'oxyde. Et c'est pour ça que dans les usines comme chez Conmills, c'est très haut, c'est à plusieurs étages. Donc ça, le fil monte et redescend. Et ces fameux dips, on appelle ça des dips, on descend, on remonte, et pendant chaque fois. Et ce qui fait que l'hydrophilie par rapport au coton ne rentre jamais jusqu'au milieu.
Mais c'est pour ça aussi, d'ailleurs, c'est ce que vous étiez en train d'expliquer, François, mais c'est qu'il n'est pas teint bleu jusqu'au cœur de la fibre.
Voilà, non.
La fibre.
Hydrophilie, par le fait de cette histoire ça crée une gaine, en définitive. C'est une gaine sur une gaine sur une gaine. And again, and again. 40 times.
C'est ce qui fait que le jean se délave, enfin, perd sa charge de bleu au fur et à mesure du temps et qu'on peut jouer justement d'un jean plus ou moins délavé et à certains endroits du corps, là où il est le plus en friction d'ailleurs, parce que c'est là où la matière frotte le plus et où la couche de bleu s'en va le plus rapidement et qu'on arrive au cœur de la fibre qui est le blanc.
Et qu'on peut avoir des teintes uniques ou des vêtements uniques aussi. Alors on parlait des cow-boys, mais très vite le jean va être porté aussi par les femmes, Salomé du Domaine.
Il va être porté par les femmes parce qu'il y a un espèce de shift culturel qui se fait au tournant du XXe siècle. En tout cas, aux États-Unis, toute cette culture, justement, au départ très ouvrière, tout ce qui est workwear, va être une forme d'incarnation de cette American way of life, et toute cette partie ouest des États-Unis va servir toute une espèce de récit national, en fait, de constitution de l'État américain, de son unicité, aussi de qui c'est. Elle est allée trouver ses propres richesses, ses richesses sur son territoire, on sait à quel prix. Et donc il y a tout cet imaginaire qui est réutilisé, communiqué par notamment des marques comme Levi's, comme des marques comme Lee Cooper à l'époque, et qui vont servir aussi toute une espèce de communication auprès des élites de l'autre côté des États-Unis, notamment de l'Est américain, qui vont avoir envie de se payer cette vie un peu rêvée, ce retour à la nature, cette vie de ranch, de grands terrains vagues, d'équitation, etc. Et il va y avoir toute une espèce de, au-delà de la communication qui est réalisée via la publicité, etc., toute une industrie touristique qui va être donc
de loisirs.
De loisirs, justement. Donc, des ranchs qui, notamment dans les années 1930, pour faire face à la Grande Dépression, qui vont louer leurs ranchs et les espaces, et puis des expériences comme justement des balades à cheval, etc., à des personnes des élites de la côte Est. Et donc, évidemment, va avec ça un peu toute la panoplie des néo-cowboys de l'époque. Et co-girl aussi, et donc les femmes y ont accès, et c'est aussi une forme d'accès pour les femmes à un vêtement de confort, à une vie un peu plus confortable, qui est permise seulement un peu le week-end, et donc un jean fait pour les femmes. Et d'ailleurs Levi's a très bien compris l'utilité marketing, puisqu'ils vont lancer une première ligne pour les femmes, Lady Levi's, en 1934 ou 35, je ne sais
34,
plus.
34, oui. Et il apparaît dans Vogue l'année suivante, d'ailleurs.
Voilà, donc c'est un vêtement considéré comme de mode. À partir du moment où on est dans Vogue, c'est qu'on est à la mode. Donc le shift, quand même, est assez fou en l'espace de 30 ans. On passe d'un vêtement ultra viril de workwear à un espèce de symbole national, universel, ouvert à tous, autant aux hommes qu'aux femmes. C'est quand même énorme en l'espace de 30 ans.
Alors à ce moment-là, on passe du vêtement de travail au vêtement de loisir. Et s'il est encore marginal, une industrie va participer à rendre le jean visible et désirable. C'est celle du cinéma. I really mean it. No, I don't want you to go to the police. There were other people. Why should you be the only one involved? But I am involved. We are all involved. Mom, a boy, a kid was killed tonight.
This is all going too fast
for me. You better give me something. You better give me something fast.
Jimmy, you're very young. A foolish decision now could wreck your whole life. In 10 years, you'll never know this even happened.
Dad, answer her.
Stand up!
You want to kill your own father?
Ivan Jacob.
C'était James Dean dans La fureur de vivre de Nicolas Ray, sorti en 1955. Vous aviez 10 ans, François Girbeau. Quelques années plus tôt, il y avait aussi eu Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir. Et dans un jean que la costumière avait retaillé et lavé plusieurs fois pour le rendre le plus moulant possible. Salomé Dudemel, le cinéma rend le jean populaire. Il le fait passer du vêtement de travail au vêtement de loisir, on l'a vu. Et il devient un vêtement sensuel, jeune et rebelle. C'est nouveau ça aussi.
Oui. Ah, je pense que déjà, la figure du cow-boy avant la Deuxième Guerre mondiale avait déjà faisait déjà appel à cet univers, je pense, aussi un peu sexuel quand même. Mais ça, c'est vraiment récupéré en effet par l'industrie culturelle, à la fois du cinéma, mais aussi de la musique. Et avec des figures ultra viriles, comme celle de Marlon Brando, qui joue des personnages de mauvais garçons. Et donc, on lui donne aussi un peu cet attribut d'outlaw, de hors-la-loi, aussi dans L'équipe est sauvage, par exemple. Et donc, il y a le biker aussi, qui va devenir une des grandes figures de diffusion du jean auprès, en fait, de la jeunesse. Et ça s'accompagne aussi de ce combo à l'époque qui est le jean t-shirt, qui est devenu un peu un espèce d'uniforme aujourd'hui. Et donc un vêtement comme le t-shirt hyper moulant qui est censé être un sous-vêtement qu'on montre aux yeux de tout le monde, ce que disait d'ailleurs Courrèges au tout début de... Et le jean qui est ce vêtement qui vit avec le corps aussi et qui se délave et qui se déchire et qu'on peut assumer aussi. Et ça va continuer, je pense à cette pochette d'album Sticky Fingers des Rolling Stones de 1971 et qui montre clairement un gros plan sur une braguette bien fournie, on va dire. Et il y a vraiment cette notion de de sexualité qui est apposée par la culture, enfin l'industrie de la culture sur le jeans et qui est récupérée comme une espèce de symbole comme ça. Et puis après, on continue avec...
Et qui existe encore de nos jours. Voilà. François Girbeau, vous vous rappelez de cette époque, de ce film? Vous l'avez vu au moment où il est sorti?
Oui, mais donc je suis un aïeul, évidemment que je me rappelle. Mais quand on parlait des Dude Ranch, et quelque part, il y a un rôle de la femme, là, tout d'un coup, qui devient très important. Mais en définitive, c'est quand même un bide. Hein. C'est quand même, le jean reste quand même ce vêtement de travail. Donc c'est Gloria Swanson, qui est le premier designer jean. C'est Carl Rosen, donc qui est le patron du jean américain, quelque part, à cette époque-là, qui va inventer, on parle de Gloria Vanderbilt, mais c'est vraiment Gloria Swanson, la première chose, qui a été une actrice du muet, je crois, qu'au départ.
Oui.
Donc ça, le jean, il est quand même sur le côté masculin, parce que...
Et d'ailleurs, il y a dans les années 1930, Claire McCardell qui
était... C'est Claire McCardell. Oui, mais Claire McCardell, c'était la guerre. Donc c'est quand la femme, elle est en train de faire fabriquer les bombes, alors que le mec, il est au front.
Claire McCardell, je le rappelle pour les auditeurs, c'est une designer américaine qui a créé une robe révolutionnaire qui
chambray,
s'appelle la Pop-Up Dress en chambray.
Donc, 8 et 8, 11 et demi, 11, c'est le poids.
Un tissu plus léger que le denim.
Un tissu plus léger, mais parce qu'il y a le chambray, il y a le denim, il y a le chambray, et il y a le...
Et qui joue sur cet univers du denim, la couleur, le coton, le tissu assez résistant, même si plus...
Voilà, c'est une robe en fait qui respecte la féminité au sens où on la conçoit à cette époque-là, dans les années 40,
mais elle porte
un tissu pratique.
Elles portent ça quand justement elles sont dans les ateliers, elles travaillent, donc elles vont changer la combinaison du pilote, mais elles l'ont adapté.
Voilà, la guerre étant un moment important
et
c'est
ce qui permet en 46 à Christian Dior d'arriver avec quelque chose de complètement différent. Et c'est là le new look.
Voilà.
C'est le basculage, c'est ce basculage qui est vachement intéressant.
Alors, le new look de Christian Dior, je le précise aussi pour les auditeurs, c'est un retour à la féminité exacerbée.
Voilà. Après
des
la guerre,
jupes très larges, une taille bien enserrée et qui s'oppose au jean. Et c'est ce qui est drôle d'ailleurs parce que...
Qui s'oppose à ce que ces femmes qui ont été obligées de porter ce truc-là. Rosie the Riveter.
Oui.
L'image de Rosie the Riveter.
Cette femme qui gonfle son biceps,
qui monte son biceps,
et qu'elle participe à l'effort de guerre.
Et ça, c'est des icônes inévitables, je pense.
Alors on arrive À ce moment de la guerre, les soldats américains vont arriver en Europe avec un jean dans leur paquetage et le jean va séduire les jeunes Français et les jeunes Françaises.
Il y a eu aussi un autre choc vestimentaire. À l'époque, c'était l'arrivée des blue jeans. Alors bien sûr, on aimait énormément les films américains et le rock'n'roll. Ça, c'était le rock'n'roll, je le dois à ma copine Annie qui a dû me faire écouter la première Elvis Presley. Il y avait un jukebox sur le boulevard en face du lycée de garçons qui diffusait tous les tubes d'Elvis et ceux d'Yves Montand aussi, mon paternel qui n'avait pas les pieds plats. Et donc, les photos et dans les films, on voyait ces fameux blue jeans. Et avec Annie, un jour, on a dit, il nous en faut un. Mais ce n'était pas évident de trouver des jeans à Nîmes, bien que paraît-il, le jean ait été inventé à Nîmes. Mais finalement, grâce à son frère, enfin je ne sais plus quelle combine, on a réussi à avoir deux blue jeans. On a dû être les premières à en porter. Et il y avait tout un rite sur les blue jeans, parce que le blue jean devait être très près du corps. Et c'était un tissu donc très épais. Et pour ce faire, la méthode consistait à aller au Gros du Roi, avec son pantalon sur le dos, rentrer dans la mer avec son pantalon, sortir et le laisser sécher sur soi. Et puis, il fallait toujours mettre son pantalon mouillé, ou alors aussi prendre son pantalon, aller dans une rivière avec une brosse très dure et un bon savon noir et les trier. Alors, ça coulait bleu, enfin, ça perdait, pour arriver à le délaver naturellement, à le faire un peu, le patiner un peu. Et puis, c'était des blue jeans à l'époque qui étaient vraiment très, très solides. D'ailleurs, on disait toujours que les cow-boys, qui ne les lavaient jamais, quand ils les posaient par terre, ils restaient debout. Et le cow-boy sautait pratiquement dans son pantalon et ensuite sur son cheval. Enfin, c'était des folies. Et alors nous, on les travaillait et on ne les quittait jamais. Bien sûr, on les adorait. Et un jour, mes parents ont eu une petite remarque de la directrice du lycée qu'il fallait quand même éviter d'aller au lycée en pantalon, qu'il fallait porter des robes parce qu'on était quand même des jeunes filles et qu'il ne fallait pas tout le temps porter le pantalon. Et ma grand-mère, un jour, m'a dit aussi, écoute, fais-moi plaisir, habille-toi en fille parce que... j'aimerais bien te voir dans une jupe, parce que je n'aimais que les jeans, que mes chers blue jeans.
Les souvenirs de l'actrice Bernadette Lafont au milieu des années 50. François Girbeau, vous vous êtes né en 1945. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? On ne trouvait pas de jeans à ce moment-là dans les années 50
non,
en France?
Non, il n'y avait pas. C'est sûr qu'il n'y avait pas de jeans. Il y avait uniquement le shape, justement les trucs de l'armée américaine qui étaient à Tours. C'est là-dessus que mes copains qui vont devenir le Goldrow, qui vont devenir les idoles, Jean-Philippe Smet, etc., qui devient Johnny Hallyday, où on prend tous des noms américains, c'est beaucoup mieux. Ça passe mieux. Donc, il n'y a pas de jean.
Donc, il y a quelques endroits en France où il y a des surplus militaires?
Au surplus et au puce, puisque je disais, la famille Frankel, comme la famille Arbetman, comme tout ça, tout ce truc-là, est-ce qui va donner aussi la famille Schorenslup et Zelser?
Qui sont ces gens?
Qui font Western House. C'est là où Western House s'ouvre dans les années 64.
Ouais, en 1964. Alors, ouais. Western House, c'était Avenue de la Grande Armée à Paris. C'est un magasin, un lieu mythique pour la mode de cette époque-là. Et vous alliez être vendeur et vendre du jean là-bas. Et c'est un des premiers magasins où on trouve du jean.
Non, on était déjà habillé en cow-boy. On était habillé en cow-boy. On faisait du lasso de la Grande Armée. On recevait les colis des qui arrivaient de Havre. On déchirait et les gens étaient en ligne. Et on distribuait les jeans. Les gens voulaient ce truc-là.
Ouais. Donc gratuitement quand même.
Bah non, ce qui arrive avec Supreme aujourd'hui ou avec Stutzi, qui a des feux, c'était les mêmes colonnes, simplement.
C'est-à-dire des drops, les marques.
Voilà, c'était pas des drops, c'était les arrivages. Ouais. Les arrivages, c'est pareil en définitive. On est en train de dire waouh, c'est nouveau, c'est pas vrai. Les gens attendaient. Et je pense que c'est toutes ces filles qui étaient autour. Tour, avenue de Victor Hugo et tout ça, les Betty Catroux, etc., etc., qui, soi-disant, le jean, bon, je crois que, on va pas reparler de ça, mais toutes ces, elles s'habillaient déjà en jean, donc elles venaient chez Western House. Je pense qu'on a habillé tout le monde à cette époque-là, Bernadette Lafont aussi, évidemment. Donc.
Salomé Dudemaine, c'est aussi le début d'une mode adolescente. Il n'y a pas vraiment de mode distincte des adultes et des adolescents avant le jean.
On passe d'un look, en général, avant, on passait d'être un enfant à être un adulte le jour où on avait l'âge.
Oui.
Donc on quittait des vêtements qui étaient pensés plus, une silhouette qui était pensée pour les enfants, ce qu'on s'imaginait être un vêtement normal pour un enfant. Et paf, du jour au lendemain, on avait l'âge d'être un adulte et on s'habillait comme ses parents.
Et c'est pareil qu'aux États-Unis, donc il y a la civilisation des loisirs qui commence. Les gens vont acheter une résidence secondaire et là-dessus, ils mettent un poney. Je ne sais pas pourquoi ils mettent un poney. Donc nous, on vend des selles pour les poneys. Ensuite, il y a des ranchs qui se construisent autour à Étréchy, tout ça. Il y a des gens qui veulent aussi vivre cette aventure. Il y a des gens qui ont le Western Club de France qui a base chez Western House. Il y a eu un mélange comme ça.
C'est juste, ça propulse une nouvelle façon de penser sa vie qui est très propre à la culture américaine, en fait, qu'on n'avait pas encore en Europe, même si déjà avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des loisirs, mais ils étaient tellement
réservés
à une certaine élite. Et donc, les vêtements de sport avant la Seconde Guerre mondiale, si on les regarde, on se demande vraiment quel type de sport on pouvait bien faire là-dedans. Et c'est vrai que les États-Unis ont eu beaucoup moins de mal à accepter aussi que dans le quotidien, on insuffle du sportswear.
Et si la jeunesse à cette époque-là, François Girbeau, est séduite, c'est pas le cas des parents et des professeurs.
Le blue jean, pourquoi l'a-t-on interdit ?
Le blue jean, parce que le blue jean, tous les films Nouvelle Vague avaient des acteurs avec des blue jeans, alors les proviseurs et les directeurs de lycée ont eu peur que la Nouvelle Vague s'installe dans les études Nouvelle Vague, c'était pas très, très agréable pour eux, parce qu'il fallait tout changer, et puis ils aiment pas ça en général.
En somme, ils aiment le classicisme.
Ils aiment tout ce qui est très classique. Ouais.
François Girbeau, pourquoi le jean est mal vu à l'époque ? Il représente quoi ?
Mais certainement, Non, mais on va pas parler déjà de révolte, tout ça, c'est pas encore, c'est après, je pense. Donc le jean,
tu pouvais pas. On est autour de mes 60.
Marmité ne pouvait pas porter de jean, de porter un jean, un pantalon à l'école, c'est pas la peine d'y penser. De toute façon, il y avait pas. Non.
Vous parliez des bikers tout à l'heure. Il est associé au blouson noir à une forme de criminalité ou en tout cas de. Comment dire
Oui, mais c'est ça, le blouson noir à Paris, c'est le blouson noir, mais il existait déjà le biker en Amérique, donc il y a une espèce de on copie au début, on est vraiment tellement intoxiqué qu'on veut être comme eux, on veut ressembler à eux, etc., etc. Je crois que c'est ça.
Tout le monde se met à porter du jean à ce moment-là, quand même.
Ouais, mais moi je suis un Indien à ce moment-là, c'est pas pareil.
Vous avez même raconté qu'en 1968, un ministre de Gaulle, Roger Frey, circule entre les piles d'ordures et les barricades pour venir s'acheter un jean Newman chez Westerhouse.
Absolument, absolument fantastique. Il rentre dans la boutique et je l'accompagne, etc., etc. Et à la fin, quand il arrive à la caisse, j'ai ses vêtements dans son sac et il me dit « jetez-les ». Donc, je les ai foutus à la poubelle.
Donc et c'était
quand même c'était symbolique. Moi, mes copains, ils revenaient, ils me disaient « Hier soir, sur les barricades, t'aurais vu le fut, putain, la ligne de jambes du fut, c'était génial !» C'est quand même... c'est comme ça qu'on l'a vécu, le 68. On était en dehors de tout ça, on n'a rien à voir. Je me souviens, avec Marité, faire ouvrir le pont, je ne sais pas lequel, l'Alma, je crois, oui. On était entre les étudiants et les CRS. Et avec nos franges et tout ça, on est arrivés, ils se sont écartés, on faisait partie de rien de tout ça, donc c'est quelque part.
Salomé Didemène, est-ce que mai 68 marque une rupture dans la façon dont les jeunes s'habillent en France ?
Oui, parce que je pense que le vêtement à ce moment-là, il est, moi je l'ai pas vécu comme François, mais mon regard extérieur, c'est qu'il incarne aussi cette volonté de changer un peu de paradigme qui est défendue par cette jeunesse qui a envie de reproduire, suivre les opinions politiques de sa famille.
Ouais, mais les étudiants d'Indian, à cette époque, c'est des combandits, c'est des Jospins, etc. Donc ils sont pas du tout, ils viennent pas chez Westerhouse, ils sont vraiment, c'est des petits minés quelque part. Donc, par l'aspect déjà. Donc,
oui. Le vêtement, il incarne, il est un vecteur très visuel de résistance, de volonté de changement. Et il y a aussi ce retour à cette volonté d'une forme de sobriété aussi dans la façon de s'habiller. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'avant la Seconde Guerre mondiale,
du moins pour ce qui concerne les classes populaires, enfin les classes les moins populaires et les classes les plus élevées de la société, on se change plusieurs fois par jour en fonction de si c'est le matin, si on reçoit, si on va dîner, quel type de dîner, est-ce que c'est un grand dîner ou un demi-dîner ou un petit dîner et
un cocktail,
et en fonction des heures de la journée. Et quand on a envie d'une société plus libre, un vêtement plus libre, ça va avec. Et puis le jean qui vient justement de, enfin, véhiculé via ce cinéma américain et cet American Way of, le free spirit américain de l'Ouest, du Grand Ouest américain, les grandes étendues, le cheval, la liberté, etc. Évidemment, le jean incarne tout ça. Donc, c'est aussi une façon de vouloir s'approprier ce discours d'émancipation, de liberté, de retour à une vie. Puis, c'est du coton. Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on en est revenu, tout ça, mais à l'époque, on peut se dire, ok, c'est du coton, de l'indigo, il y a quelque chose aussi d'un certain retour à la nature dans les matériaux, contrairement à l'avènement du polyester qu'on est quand même en train de vivre à ce moment-là, parce que c'est quand même, le plastique est fantastique dans les années 60.
Ouais. Il y a un essor à la fois du plastique, donc des matières issues du pétrole, et puis du prêt-à-porter aussi, qui va faire que le jean va se généraliser, Salomé du Domaine.
Oui, et c'est ça aussi, je pense, que dont on hérite de la part des États-Unis à ce moment-là, c'est que peut-être que la France était aussi très empreinte de son historique de haute couture et qu'il y avait aussi, je pense, encore une consommation, même si les grands magasins existaient déjà, Prise Unique existait déjà, donc on avait quand même du prêt-à-porter déjà en France. Néanmoins, les États-Unis ont vraiment vu depuis le 19e siècle un intérêt à industrialiser toute la production de la plupart de leurs biens, tandis que la France a quand même toujours eu une façon aussi de penser son industrie et son pouvoir sur le marché international via l'artisanat. C'est encore aussi le cas aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, c'était très ancré dans la culture américaine d'industrialiser, de surindustrialiser ses biens et de rendre accessible aussi à tous un certain mode de vie. C'est ça aussi la promesse des États-Unis, contrairement au vieux monde européen.
On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais vous décrivez les jeans de l'époque dans votre livre, François Girbeau, comme une chose raide et bleue, comme une morue salée.
Eh ben oui.
Ça n'a rien à voir avec le jean qu'on connaît aujourd'hui.
Oh mais non, c'est quand Madame Philippine Pascal ou Madame de Rothschild, qui n'était pas Madame Rothschild, elle venait chez Western House, mais Edmond, il ne peut pas porter un truc aussi raide, etc. Mais on lui disait, c'est la même chose, putain, c'est la même chose, c'est lavé, simplement. Et là-dessus, grâce à tout ce truc-là, on va inventer l'industrialisation du délavage.
Oui, c'est ce que le délavage, oui, c'est pas qu'une question de couleur, c'est aussi pour rendre la matière plus souple.
Eh ben oui, parce que sinon, c'était sanforisé. On vendait des vêtements de travail avec le sanfor. Et le sanfor, c'est pour dire, ouais, j'ai un vêtement, il va tenir longtemps, etc., etc. Dans les campagnes, dans les trucs comme ça, c'était ça. C'était le vêtement, c'était la résistance, la robustesse, etc., etc. Donc, là-dessus, nous, avec nos idées de faire des pantalons un peu plus différents des Américains, etc., etc. Parce que nous, on a toujours voulu, quand on a commencé, c'était ne pas faire comme les Américains. Et heureusement qu'on a tenu bon. Heureusement qu'on a fait comme ça. Mais la toile, elle était dure.
Donc vous inventez.
C'est 13 3/4, 13 11 3 quarts.
Alors qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres?
Ça va faire du 500 grammes, peut-être.
C'est très, très épais, quoi.
C'est lourd et épais. C'est lourd.
Alors vous allez inventer non pas le délavage, mais l'industrialisation du délavage pour rendre la toile plus souple.
Non, on n'a pas inventé le délavage, mais personne n'avait jamais lavé un vêtement pour le vendre. C'est là-dessus, quand on se trouve au McAlpin Hotel en train de vendre des jeans français fabriqués à Amiens, où on vendait ça, et les mecs, ils venaient. Et vous voulez que je paye en plus le prix pour être lavé? Oui, vous devez payer parce que c'est lavé. Et il y a très peu, il y a que Marvin Chanis qui est passé, il est venu trois fois, ça se passait à l'hôtel, dans des hôtels, les ventes à l'époque, et il est venu trois fois, et c'est le premier qui a convaincu Marvin Tropp, qui était le président de Bloomingdale's, quelque part en train de dire,
il se
passe quelque chose avec ces putains de Français là, ils sont, et là-dessus c'est là où on a commencé vraiment. Je crois que l'Amérique nous a trouvé, puisque ils faisaient pas, ils vendaient pas des jeans lavés, ils vendaient pas, eux c'était le vêtement qui passait du grand-père au fils ou tout ça, donc on était déjà à cette génération. Et là, on avait envie d'autres formes, donc c'est là où on va faire.
On va y venir outre le délavage.
On est franchouillard au départ.
Voilà.
On est vraiment.
Vous allez
procédé à ce délavage qui va rendre le tissu plus souple, mais au tournant des années 60-70, vous créez aussi des jeans fités, c'est-à-dire oui. plus près du corps. Vous remontez la fourche, ce qui a pour effet de rehausser les fesses, et les Américains vont appeler ça le French jean.
Oui, la French correction, c'est remonter les génitales, c'est pas que les fesses. Il y a un basculage. On invente un basculage qui va être suivi, parce que les vêtements, ils étaient des vêtements de travail, c'était pour hommes. Il y avait pas de, on a parlé juste de l'adaptation de la femme qui va porter un vêtement de travail, juste, et Claire McCardell qui arrive d'une certaine manière. Mais nous, de l'autre côté, il y a un vêtement d'homme, ça va décoller dans le dos, sur la chute du dos. Donc il a fallu trouver ce basculage pour que ça soit appliqué, pour les fesses aussi. Et on va scier le braguette en face. Donc quelque part, c'est pour les Américains, c'est terrible.
Donc ça donne une silhouette plus sexy, ça change complètement le jean, plus moulant.
N'oubliez pas qu'à l'époque on croise les jambes, les femmes croisent les jambes. Là, on commence à avoir les jambes ouvertes. Il y a le sacco qui rentre dans la vie. Donc, on n'est plus assis sur un fauteuil d'une certaine manière. Donc, on ne sait pas. Nous, on fait les trucs qui nous plaisent et puis voilà, c'est tout. Et ça va plaire aux Américains. Bon, ok, on est content, mais on s'en fout totalement. C'est pas ça, parce qu'au contraire, nous, ils viennent, ils nous copient. Ça nous énerve, c'est tout ce que ça fait. On les fout dehors, Marité, les fout dehors. On a pris du temps, nous, avant de comprendre que c'était un marché, qu'on était en train de réinventer complètement l'industrie textile, puisque il n'y avait pas cette opération de laver, ou traiter après confection. Bon, oui, c'est aussi un autre Toulousain qui est Jimmy Taverniti. Jimmy va réinventer le processus de surteindre. Et à ce moment-là, il prend le vêtement du boucher, du boulanger, du machin, qui sont chacun à sa caste. Donc c'est des petites rayures, c'est du prince de Galles, du tout ça, qui sont surteints en rose, en violet, en tout ça. Putain, ça te fout. Ça, on te bouscule complètement l'Amérique.
Et c'est un marché dans les années 60 qui va continuer à se généraliser, le jean, au grand regret de certaines personnes.
Malheureusement, je dis malheureusement parce que étant né au Hall, j'ai connu les Halles avec tous les costumes pittoresques de l'époque. Je dis malheureusement, tout le monde a un petit peu tendance aujourd'hui à s'habiller de la même manière, n'est-ce pas? Le blue jean, il n'y a plus le costume qui caractérisait une profession. Dans ma jeunesse, j'ai encore connu au Quartier Latin les poètes qui s'habillaient en poètes, par exemple.
France Culture, ils ont changé le monde. Les vêtements, Ivan Jacob.
Dans cet extrait, on entend le cinéaste René Clair regretter l'uniformisation du jean. C'est un reproche qu'on retrouve assez régulièrement dans les années 60. François Girbaud, avec Marité Bachelery, vous avez créé des pattes d'œufs, des baggies comme le jean Pépère qui a fait un carton sur la scène hip-hop. Il appartient à personne, le jean. Il est à tout le monde. Vous avez créé des choses très différentes les unes des autres, vous-même.
Je sais pas, non, je crois qu'il y a... C'est un work in progress. Je pense qu'on a avancé comme ça à mesure, et c'est effectivement il y a une chronologie qu'on a toujours voulu développer, et je crois même aujourd'hui je travaille toujours comme ça, de cette manière-là. Il y a un moment il y a une forme, mais ça en appelle une autre. Nous le jean, on est quand même les seuls aujourd'hui, je pense. Asdi n'est plus là, mais on est les seuls de
Asdi
Nalaya. Ouais, donc je pense qu'on est les seuls encore à travailler ciseaux, épingles.
Vous créez le jean sur...
Aujourd'hui, le jean se travaille à plat partout dans tout le monde entier. Et ils font un peu plus large, opening leg, un peu plus large, un peu plus étroit, etc. Alors que nous, on remet chaque fois en question. Chaque fois, c'est un moulage. C'est du moulage.
Sur des mannequins. Vivant.
Vivant.
Salomé Dudemène, c'est aussi à cette époque-là, à partir des années 70 environ, que le jean devient un objet de mode. On l'a évoqué rapidement. Il est passé de vêtements de travail à vêtements de loisir, et puis il est devenu un objet de mode. Comment ça s'est passé?
Oui, je trouve que justement, toute cette émulation autour de cette nouvelle génération de ce qu'on appelait à l'époque les stylistes ou les créateurs, qui vient apporter un vent nouveau et s'emparer de cette idée de prêt-à-porter qui a d'ailleurs été, on en parlait tout à l'heure, beaucoup, beaucoup plus développé aux États-Unis qu'en Europe, et d'en faire une version luxe. Et c'est un peu ce qui se passe avec le jean. C'est quoi la version créative et donc aussi un peu luxe du jean, celle celle qui apporte quelque chose de plus et qui fait un peu oublier justement cet héritage du workwear.
Ouais, mais c'est ce qui nous associe, nous. Nous, on n'est pas du tout de cette extraction. On n'est pas une extraction. Pour le rêve de Jean-Paul Gaultier, le rêve de Thierry Mugler, le rêve de Montana, de cette époque-là, ils viennent chez Western. Je les connais, moi, depuis le début. Donc, j'ai vu leur rêve évoluer. Mais ils étaient dirigés vers la haute couture. Donc, chacun a apporté quelque chose à un certain moment.
Alors, vous dites, François Girbeau, que vous avez sorti le jean du style Marlboro. Ça veut dire le rendre plus mode.
À la Marlboro Country. Mais on l'a sorti des grands espaces. On l'a amené dans les stadiums. Parce que là-dessus, quand on a commencé à mélanger avec tous les stretchs et tout ce qu'on vient de parler, donc, il est devenu urbain. Après, il évolue, le jean. C'est vachement intéressant, ce qui est. Mais bon, Marlboro Country, oui, je refuse pas les grands espaces américains, ou la musique country. Mais ça, c'est mon truc. Quand je suis là, il y a toujours cette Amérique-là. Elle est là dans ma tête.
Alors, on parlait du jean mode, Salomé Dudemaine. Pourquoi tous les créateurs dont on parlait, Claude Montana, Jean-Paul Gaultier, vont appeler leur ligne, certaines de leurs lignes de vêtements, jeans? Ça veut dire quoi?
Ça, c'est vraiment un mouvement qui a lieu pendant les années 80. Ouais. On a notamment Armani qui crée en 80 Armani Jeans. C'est vrai ce que disait François, c'est qu'au départ, ce sont des marques qui sont vraiment tournées vers le luxe à cette époque, qui défilent pendant les semaines de la mode, les fashion week de l'époque, proposent une mode qui est quand même pas accessible à tous et à toutes, quand même, on va pas se le cacher, même s'ils font du prêt-à-porter et pas de la haute couture. Donc on a toute cette nouvelle scène, par exemple Thierry Mugler, Kenzo, puis un peu après eux, Jean-Paul Gaultier, qui vont créer ces lignes jeans. Et c'est intéressant parce que donc, ce sont des lignes qui, au départ, sont basées en effet sur un jeu, une certaine créativité avec l'univers du jean, que ce soit sa couleur, son tissage, ses formes, le rivet, les surpiqûres, etc. Mais en même temps, petit à petit, toutes ces lignes vont aussi intégrer pour proposer un total look, parce qu'on ne peut pas porter que du jean, il faut peut-être un petit t-shirt à mettre en dessous, ou peut-être un petit sac à main portable, etc. Et donc ça devient des silhouettes totales, et donc on n'a plus seulement du jean dedans, mais c'est une façon aussi, c'est ce qu'on disait, c'est du mot du jean qui devient un espèce de réceptacle d'un imaginaire, d'une culture, c'est juste la jeunesse en fait. C'est des lignes qui sont produites en plus grosse quantité, qui sont plus industriels et qui sont plus abordables, mais qui sont aussi plus sobres, plus simples dans leur façon d'être exécutées dans les coupes, parce qu'elles sont aussi adressées à une clientèle plus jeune. Et donc, ça vient s'inspirer aussi de tout un autre univers, de plus une cliente ou un client plus jeune que celui de la mère qui va acheter la première ligne suite au défilé, et le fils ou la fille qui va se permettre un début, une première entrée dans le luxe via la ligne jeans. Et aussi, ce sont des lignes qui ont beaucoup plus de... un réseau de distribution beaucoup plus grand, beaucoup plus de boutiques en propre dans certaines villes qui sont pas seulement les capitales. Kenzo Jeans, ça va être vraiment une des lignes de la maison qui va être les plus distribuées. C'est énormément de vêtements vendus, c'est une des lignes qui fait tenir d'ailleurs la partie mode plus luxe de la maison pendant toutes les années 90. C'est vraiment la ligne Jeans, c'est finalement
c'est ça qui rapporte aussi.
Oui, qui rapporte de l'argent.
Mais alors il y a quelque chose aux États-Unis, c'est le moment des designer jeans. Donc, il y a Calvin Klein, il y a Tommy Hilfiger, il y a Donna Karan.
Calvin Klein, qui est quelqu'un de très important pour l'histoire du jean.
Qu'est-ce qu'il dessine? Il s'empare du 5 poches. Il faut un 5 poches, ni plus ni moins, sur lequel ils mettent une étiquette. C'est tout. Tandis que là, ce que vous venez d'expliquer, c'est qu'il y a vraiment de la création. C'est pas la mode qui nous a fait, c'est la rue qui nous a fait, nous. C'est marrant parce que, oui, on a signé certainement des silhouettes spéciales, je pense. C'est ça qui a fait changer.
Oui, vous n'êtes pas venu du luxe, vous. Pas du tout. C'est pas votre chemin.
Du blues où je suis venu.
Dans les années 70, tout le monde est en jean, homme, femme, bourgeois, prolétaire, comme le remarque ce reportage chez des commerçants parisiens en 1976.
À 7 ans, habituellement, le jean se portait plutôt par des gens assez simples, assez pauvres, qu'un petit budget. Mais en fait, tout le 16e s'habille en budget.
Pas de problème, hein. Aussi bien 16e et des célébrités même qu'on n'a pas citées s'habillent en blue jean, il n'y a pas de problème. Mais dans les plus grandes boîtes de Paris en blue jean, on est reçu. N'importe comment, les blue jeans, ça varie de 29 francs chez nous et dans d'autres magasins à 200 francs, 300 francs. Donc ça correspond à toutes les clientèles. Même la plus snob des clientèles s'habille en jean.
Salomé du Domaine. Aujourd'hui, on trouve des jeans à tous les prix. Est-ce que le jean crée de l'égalité entre les gens ou est-ce que c'est un objet de distinction, comme la plupart des objets de mode? Ou est-ce que c'est les deux?
Non, il crée en effet une forme... C'est marrant parce que je me disais en venant, on dit toujours que en Occident, en France, à Paris, les gens s'habillent de manière pas très colorée, ils sont toujours en noir, en gris. Non, on n'est pas en noir, en gris, on est en bleu en fait. Donc aujourd'hui, c'est fou, la couleur principale de notre garde-robe, c'est le bleu. Et donc en effet, pour ça, ça crée une forme d'universalité. Et dans la rue, dans le métro, on peut voir passer des personnes avec un statut social. On ne sait pas en fait quel métier, quel... Parfois, c'est presque les autres éléments de la silhouette qui nous donnent des indices. Plus qu'un jean.
Le sac, les chaussures.
Exactement. Un sac, des chaussures, parce que c'est vrai que c'est difficile parfois avec seulement le jean de connaître le prix de cet objet.
Oui, complètement. Et puis des jeans de mauvaise qualité qui arrivent quand même aujourd'hui très bien à nous tromper, je trouve, par je ne sais quelles astuces, parce que c'est pas mon métier, c'est plus celui de François. Mais donc je trouve qu'en effet, ça crée une espèce de vêtement universel avec un t-shirt et des baskets. C'est le look contemporain.
C'est vrai que ça reste le vêtement le plus vendu au monde avec le t-shirt. Or, c'est un vêtement extrêmement polluant. Pourquoi c'est si polluant, le jean, François Girbeau?
Ah, ça y est, c'est moi qui pollue la planète.
Non, c'est pas vrai.
Mais c'est vrai, non, mais c'est totalement vrai, parce qu'à l'époque, on ne se rendait pas compte.
Alors, il faut expliquer que le coton, c'est déjà une culture qui utilise beaucoup de pesticides.
S'il y a bien quelque chose qu'il faut faire disparaître, c'est le coton. Si on veut vraiment être sustainable, alors la sustainabilité, vous allez l'expliquer, parce que ça dépend le pays qui en parle, ça dépend. Aujourd'hui, c'est très compliqué de parler de sustainabilité.
Ouais, de développement durable, de durabilité.
Voilà, on sait surtout ça. On a un objectif quand même, objectif de développement durable, c'est 2030. On avance tous sur ce chemin-là. Ça prend du temps, c'est difficile, mais on s'est rendu compte, moi, en 1989, quand le mur de Berlin tombe, c'est là que je prends un coup. J'ai vu peut-être l'ouverture de l'Est et l'Ouest, certainement, mais en même temps, j'ai vu que ces gens-là qui étaient derrière le mur, qui rêvaient des mêmes choses que nous, quelque part, à travers le cinéma, les images étaient passées, mais eux, ils n'avaient rien compris, ils portaient des jeans à 6 doigts, qui était lavé avec des trucs, du permanganate. Et tu dis, mais merde, j'ai fait ça. On a délavé parce qu'on aurait délavé. Moi, me filer à la bombe atomique, je te délavais à la bombe atomique.
Vous étiez obsédé par le délavage, c'est ça?
Mais pas le délavage. C'est pas que moi. Il y avait les punks, etc., etc. Puis Vivienne ou Catherine Hamnett.
Vivienne Westwood, on
montrait. Puis en Angleterre, il y avait déjà le jean Destroy. Il n'y a pas de bassin de décantation. On va justement cet indigo qu'on parlait qui va. On enlève l'indigo puisque c'est ça qu'on va chercher d'une façon chimique ou d'une façon manuelle ou alors avec les pierres quand on invente le Stonewash. On va heurter le truc.
Vous lavez des jeans avec des pierres dans la machine à laver.
On lave avec des pierres, oui. Bon, et c'est fantastique.
Mais non, pourquoi vous faites ça? Parce que je suis de Mazamé,
on faisait tourner
dans le sud-ouest de la France.
On faisait tourner les peaux de mouton pour assouplir, etc. Parce qu'à Mazamé, on fait le délainage, on sépare la laine du cuir.
Mazamé est un grand centre de
délainage. Été. Oui, mais donc là-dessus, c'est grâce à ça, c'est que un jour, je me suis dit, on va faire. On voulait délaver, alors on a bouché les tuyaux, on a fait plein de trucs. On a vraiment tout merdé parce que c'était comment on peut arriver à... Et là, il y a quelqu'un qui a dit, c'est pas moi, et il a dit, mais il faudrait la pierre légère. Et on était en Italie, donc on est allé tout de suite, on était à Rimini, on est allé dans les petits magasins pour les ongles, etc. On a pris la pierre ponce, on a acheté des pierres ponces, on l'a mis dans la machine, on l'a fait tourner. Et là-dessus, c'était le miracle. Là, c'est le début du Stonewash, parce qu'on avait essayé avec des vrais cailloux. Mais avec des vrais cailloux, quand ça monte dans la barbotte, ça monte et ça tombe. Donc, il y a des problèmes.
Ça bouche les machines à laver.
On a pété les machines. On a pété. Mais aujourd'hui, tout ça est réglé. Donc, il y a eu ça, mais en même temps, on s'est pas rendu compte qu'on, on détruisait les rivières.
Et vous parlez d'un sursaut éthique à ce moment de la chute du mur de Berlin. Comment vous avez fait pour changer vos méthodes de production?
J'ai changé tout parce que j'ai pensé qu'au pétrole. À ce moment-là, j'ai travaillé que sur les polypropylènes,
toutes les matières dérivées du pétrole.
Oui, mais et ça a donné tout le stress aussi. C'était vachement important. Et ça a été une époque. Moi, j'ai abandonné le jean. Et alors qu'on était au maximum, je pense. Et là, on a travaillé, on a développé beaucoup de choses. Et là, c'est là où on a le plus de, parce que on a mis tout ce temps. Et puis, au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte que c'était pas biodégradable. Ah, alors le coton, on détruit la planète. Et quand tu fais le truc avec le pétrole, les dérivés du pétrole, c'est pas biodégradable. Alors, si on veut pas construire des montagnes de vêtements comme dans le nord avec le charbon, c'est pareil parce que quelque part, et c'est là où on a été suivi par les techniciens, la recherche, et je pense que on est sur le bon chemin. Mais depuis 89, on part de 1989 pour aujourd'hui dire on a équipé à peu près tous les continents, les endroits où sensibles, le Pakistan, l'Inde, la Turquie, etc., etc. Ils ont des machines suisses, les mieux du monde, etc., etc. Faut pas me raconter uniquement qu'il y a que la pollution. Oui, on a pollué, il y a eu ce truc-là. Mais en Chine, aujourd'hui, il y a un putain de grand bond. Donc, est-ce qu'on va y arriver? Certainement.
On va y arriver. Vous avez dit qu'acheter un jean est un acte politique,
oui.
François Girbeau.
Bah oui.
Alors comment on peut agir en achetant aujourd'hui?
Ben surtout pas en pleurant là comme ça. Ah, j'achète un truc bien dégueulasse parce que c'est pas cher, etc., etc. Il faut bien comprendre que c'est trop facile. Il y a la possibilité du no coton. Nous, on travaille avec ISCO, on est sur quelque chose comme 2030 peut-être pas, mais 2050, on se servira plus du coton. On ne se ravira plus au coton pour c'est pas le mot recycler, mais c'est fantastique ce qui se prépare.
Mais parce que vous avez consacré du temps, vous, François Girbeau, à convaincre les gens de la mode de produire du jean propre. Vous parlez de croisade, donc les résultats de cette croisade, ça porte leurs fruits. Comment ça porte leurs fruits?
Oui, mais c'est grâce à des gens, c'est pas tout seul. Heureusement, il y a une prise de conscience. Donc, on a fait Rebelle notre criminel. C'est un salon. C'était 2003, je crois, 2003. Donc, c'est Rebelle notre criminel. On veut que le jean, il ait toujours ce truc-là. On a enlevé tous les permanganates. On a enlevé tout ça. Et c'est bon. C'est bon. On y arrive.
Je trouve ça fou qu'on soit tellement accroché au jean,
et de laver,
on donne autant d'années et d'investissements financiers.
Et pourquoi?
Pour qu'ils survivent.
Pour le délaver, c'est de la connerie quelque part. On a inventé peut-être, mais je vois pas pourquoi aujourd'hui le jean doit être délavé. Faut m'expliquer.
Faut arrêter de le délaver. François Girbeau, en 1993, dans un article de L'Express, vous disiez « Ça fait 30 ans que j'entends dire que le jean est mort. On est 30 ans plus tard, il est encore là. Est-ce que le jean peut mourir ?»
Il bande encore. C'est ça le truc. Tu vois, il fallait pas me dire ça.
Salomé Dudemaine, le jean peut-il mourir?
Mais c'était justement la question que je me posais. C'est, on n'a aucune envie qu'il meure, visiblement, parce qu'on investit tellement de temps. Et c'est vrai de se dire que depuis les années 60, si on peut considérer que c'est là que le jean a commencé à se démocratiser et à devenir un élément central, voire même l'élément principal de notre garde-robe contemporaine, c'est fou de se dire que on est sur un cycle vestimentaire dont on ne connaît toujours pas la fin et qui a aujourd'hui 70 ans.
Regarde, quand il va y avoir la catastrophe finale, etc., etc., bon, c'est assez con pour y aller, on y va vraiment, mais s'il y a un rescapé homme et un rescapé femme, la terre est détruite, il y a la première chose qu'ils vont faire, ils vont pas faire des robes de soirée, hein. Ils vont faire un vêtement, ils vont, pour se protéger, ils vont faire un vêtement pratique, fonctionnel, etc., etc. Donc ils vont réinventer le jean. C'est obligé.
Voilà, ce sera le mot de la fin. Après l'apocalypse, il restera le jean. Merci à tous les deux, Salomé Dudemaine, François Girbeau. Merci à Laurence Millet qui a réalisé cette émission, à Audrey Carme et à Lilou Maupetit qui ont aidé à la préparer. Merci aussi à Jean-Guilain Mège et Ruben Carmazine. Aujourd'hui à la technique, c'était Marie-Claire Oumabadi.
Vous pouvez retrouver cette émission et tous les autres vêtements qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.